CJSO 101.7, La Tribune. Une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour tout le monde. L'éducation est un droit humain, un bien public, une responsabilité publique. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l'éducation. Nous en saisissons l'occasion pour nous entretenir ce midi à la tribune avec 10 profs à la retraite qui ont influencé le parcours de pas mal de jeunes d'ici. Olivette Saint-Germain, Jacques Cournoyer, Shirley Saint-James, Richard Salva, Pierre Provençal, Ghislaine Cournoyer, Richard Joly, Pierre Girouard et Louis Plamondon. À vos pupitres, la cloche sonne après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, on commence l'année en beauté avec notre promotion de lave-vaisselle Whirlpool. Jusqu'au 1er février, économisez 350 $ additionnels sur tout lave-vaisselle Whirlpool admissible à l'achat d'un réfrigérateur et d'une cuisinière Whirlpool admissible. Passez nous voir en magasin pour les détails des rabais instantanés et la liste des modèles admissibles. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus sur la promotion de lave-vaisselle Whirlpool, visitez lemeublebeaulieu.ca.
L'hiver, la neige, le vent, les tempêtes. Mais ce qu'il y a de plaisant, ce sont les randonnées en pleine nature. Pour les planifier, ne manquez pas les conditions de sentier VTT diffusées tous les vendredis, 7h40. Vous obtiendrez un résumé complet concernant les conditions des sentiers et l'organisation des différentes activités. Les conditions de sentier VTT, une présentation de Performance NC et du bar 525. La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
On profite de la Journée internationale de l'éducation pour accueillir à la tribune ce midi les souvenirs et les réflexions de 10 enseignantes et enseignants à la retraite. On joint la première à Yamaska, Olivette Saint-Germain, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez en quelque sorte été, Madame Saint-Germain, l'Émilie Bordelot de l'école de l'île du Domaine.
C'est justement ce que je pensais.
Est-ce que vous trouvez que ça ne vous rajeunit pas?
Non.
ce n'est pas là que vous avez connu votre villa à vous, Conrad?
Non, ce n'est pas là.
pour vous retrouver devant le tableau noir là, à l'école de Lille à Yamaska, il faut remonter en quelle année?
En 1954.
1954. À combien d'élèves enseignez-vous? Est-ce que vous enseignez? Est-ce qu'ils étaient de plusieurs niveaux?
Racontez-nous ça. J'avais 8 élèves. De la première à la 8e année.
Elle allait faire de la gymnastique, première à 8e année?
Oui, oui. Le plus vieux était comme au Villapronovo. Il était en 8e année.
Et, là, et 8 élèves, école mixte, évidemment, garçons, filles?
Oui, 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 garçons et filles.
Et comment ça se partageait entre garçons et filles?
Il y en avait un en première, un en deuxième, deux en troisième. En tout, ça faisait 8. J'en avais une en sixième. Et puis son frère, son grand frère, était en 8e année, mais il venait pas toujours, lui, parce que des fois, il aidait son père pour les semences et puis pour, les foins. Hein.
C'est ça, là, on est en milieu rural, là, hein? C'est
oui,
le
oui,
modèle
oui,
des écoles
campagne,
de rang.
Là. Oui, oui. L'école numéro 8, ça.
École numéro 8, parce qu'il y en avait énormément sur le territoire.
À chaque rang, il y en avait une. Il y avait le petit chenail, le grand chenail, le bord de l'Ouest, le bord de l'Ouest. Alors, ça faisait une grosse gagne.
Et il y avait, à cette époque-là, ça n'existe plus, les commissions scolaires, il y avait à cette époque-là plusieurs commissions scolaires sur le territoire.
Il y avait une commission scolaire par école. C'était unique, je pense, dans la province de Québec.
Oui. Il fallait, comme dans les Filles de Caleb, j'aime ça référer aux Filles de Caleb, alimenter le poêle à bois.
Oui, c'était le plus vieux des élèves et qui venait le matin chauffer un poêle à deux ponts. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça encore. C'était comme, il mettait le bois dans le bas. Ensuite, il y avait un autre compartiment qui était probablement pour un four. Je n'ai jamais rien fait là-dedans. Puis il y avait des ronds de poils sur le dessus.
Il n'y a pas un incident lié à ça?
Oui, le feu avait pris dans le tuyau. Dans le tuyau, il y avait un tuyau qui sortait au au deuxième étage de l'école, là. Et puis, à un moment donné, les enfants, je pensais que c'était comme l'hiver, je pensais que c'était une petite tempête de neige, mais à un moment donné, je me suis aperçue que c'était pas ça du tout. Alors, les élèves ramassaient leur sac d'école, puis ils mettaient leur livre dedans, puis j'étais sortie par la fenêtre.
Oui, là. Quel âge pouviez-vous avoir à cette époque-là?
Moi, j'ai commencé à enseigner à 17 ans.
17 ans?
Je venais d'avoir 17 ans.
Et là là. Et votre carrière d'enseignante, elle s'est divisée en deux temps, hein, avec l'obtention d'un baccalauréat entre les deux. Là.
À l'université, oui, en musique.
OK, alors il y a...
J'étais mariée dans ce temps-là.
OK, parce que quand vous vous êtes mariée, vous avez fondé famille, là, il y a eu une pause.
Oui, oui, oui.
Et quelques années plus tard, un retour à l'enseignement en musique.
De belle fille.
Oui.
Oui.
Quel regard portez-vous, Olivette Saint-Germain, sur l'évolution du système? Est-ce qu'il a évolué pour le mieux, vous trouvez?
Bien, sûrement. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas évolué. La bâtisse s'était bâtie en 1887 sur l'école. Elle est encore là, là.
Oh oui, sur l'île du Domaine, on peut encore la voir. Elle n'a pas été transformée en chalet ou quelque chose comme ça?
Oui, puis elle a été vendue en 1961, 200 $.
Eh bien, c'est un bien patrimonial qu'il faut sauvegarder. J'espère que Diane de Tonnancourt va être d'accord avec ça, hein?
Ça devrait.
Ça doit vous arriver assez souvent de croiser d'anciens élèves. Comment vous vivez ça? Est-ce que ça vous fait remonter des souvenirs à la surface, oui?
Oui. Mais j'enseignais après ça à l'école Notre-Dame, l'école qui vient de tout rénover là, à Yamaska, là, près de l'église. J'ai enseigné à l'école Notre-Dame, puis ensuite j'ai enseigné à Sorel aussi. À peu près dans toutes les écoles de Sorel, j'ai enseigné la musique.
Ben, il y a certainement des musiciens qui vous doivent leur carrière.
Probablement.
Merci beaucoup, Olivette Saint-Germain, de nous avoir partagé ces souvenirs.
Ah bien, merci beaucoup.
Merci, à la prochaine. Ouais. Mon prochain invité ne possède pas que je sache, de passer d'enseignant dans une école de rang, peut-être d'élève. Bonjour Jacques Cournoyer.
Bonjour Sylvain.
T'as pas enseigné dans...
Je connais pas les écoles.
Donc, t'as pas enseigné dans une école de rang?
Non, je suis vieux, mais pas à ce point-là.
Tu n'en as pas fréquenté non plus?
Non, j'ai été éduqué dans la région de Sorel.
OK, alors Jacques Cournoyer a enseigné pendant des années en art dramatique avant à Fernand Lefebvre. Avant de parler de cette grandiose époque ou épopée, est-ce que vous avez sévi ailleurs qu'à l'ISFL, Jacques?
Ah, j'ai débuté ma carrière au Collège Sacré-Cœur.
OK. Pour enseigner quoi?
J'enseignais le français à ce moment-là.
OK. J'ai eu... Continuez. Non, allez-y.
Je dis, j'avais fait mon bac en études françaises. Fait que c'est ce qui m'avait amené à découvrir le monde du théâtre et tout.
J'ai utilisé, vous le savez bien, là, le verbe sévir pour rigoler. Je vous ai toujours connu avec un sourire en coin. L'enseignement vous a rendu très heureux. Qu'est-ce que vous avez en particulier apprécié de ce métier-là?
Le fait de toujours pouvoir rencontrer des jeunes qui nous motivaient à ne pas vieillir et qui nous incitaient à être actuels dans ce que nous faisions.
Je suis allé jeter un coup d'œil ce matin à ce qu'il faut pour enseigner l'art dramatique et on dirait que l'Université Laval dresse votre portrait. Écoutez, une personnalité chaleureuse, dynamique et assurée, une grande capacité d'adaptation et d'improvisation, de l'audace, de la créativité, de la polyvalence. Mais là, c'est vous.
Allez, ils m'ont pensé que je te paye.
C'est vrai que ça fasse un peu. Est-ce que... Ben, parlez-moi des brillants collègues que vous aviez dans votre département à l'ISFL.
Vous parlez d'enseignants ou d'étudiants?
D'enseignants.
Oh mon Dieu, j'ai eu notre célèbre député, M. Plamondon.
Auquel on va parler tantôt.
J'ai connu aussi des gens comme M. Goulet, celui qui a fondé Sport Expert, qui enseignait à l'époque en éducation physique. J'en ai connu des plusieurs. J'ai eu Mario De Guise aussi qui a travaillé avec nous à l'époque en éducation physique, lui aussi. J'ai connu tous ces gens-là et plus encore.
Oui, et avant que je vous mette sur la piste d'enseignants et d'enseignantes que vous avez côtoyés, vous, vous alliez me nommer des élèves. Est-ce que vous aimez ça, savoir ce qu'ils deviennent? Est-ce que vous suivez leur parcours?
J'essaie autant que possible de suivre le parcours, mais par contre, j'ai aussi cette année eu le privilège, c'était l'année dernière, 2022, d'être invité pour le 50e anniversaire du Fernand Lefebvre, où une enseignante, Peggy Lavoie, enseignante en art dramatique, a fait la collection de ramasser le plus de nos talents locaux, et c'est très impressionnant. Moi, j'en ai connu plusieurs d'entre eux, mais comme ça fait déjà 21 ans que je suis parti, il y en a d'autres qui ont fait d'autres carrières. On a des gens qui ont fait des carrières nationales, on a qui ont fait des carrières internationales. On a vraiment des gens, même d'ailleurs, il y en a un qui vient de se faire sauter à la télévision, là. Si vous écoutez l'émission, comment ça s'appelle, à 7 heures le soir, là, Radio-Canada.
Oui, d'accord. Alors, vous parlez de qui, là?
Excusez-moi.
Ah, la mémoire. La mémoire est une faculté qui oublie.
La mémoire. C'est l'émission Star. Non, ce que je voulais dire, c'est que on vous demandait de qui je parlais que tu peux sauter.
Oui.
Attendez une seconde. Frédéric Selvaille.
Oui, Frédéric Selvaille, qui a été un de vos anciens élèves, donc.
Oui.
OK.
Et c'était un élève exceptionnel à l'époque, puis ça a continué.
Quel regard vous portez, Jacques Seller, parce qu'on arrive au bout de l'entrevue, quel regard vous portez sur l'évolution de l'éducation? Il y a des chiffres qui sont sortis hier, là, l'examen de français écrit de 5e secondaire qui s'est mal passé pour bon nombre d'élèves l'an dernier. Il y a des centres de services scolaires où près de la moitié des jeunes ont échoué. Est-ce qu'on doit prendre ça comme un signal d'alarme?
C'est un signal que l'éducation est malade. C'est un signal qu'il faudrait penser beaucoup à investir parce que une des fonctions primordiales de notre société, c'est d'éduquer. Et actuellement, on peut dire que c'est pas là qui sont les priorités les plus favorisées.
D'accord. Hey, merci beaucoup, Jacques Cournoyer. Je vous souhaite un bon séjour en Floride. Vous nous parlez de là.
Oh, actuellement, oui, je suis là. Actuellement, oui.
Est-ce que vous rencontrez de vos anciens élèves qui sont devenus des snowbirds?
Pas actuellement.
Pas encore. Faudra attendre quelques années encore. Merci beaucoup, Jacques. Merci.
Merci, Sylvain. Au revoir.
Au revoir. On poursuit avec une autre enseignante qui a influencé le parcours de plusieurs de ses élèves. Shirley St. James a enseigné au cégep de Sorel-Tracy de novembre 1976 à juin 2012. Si je suis bien renseigné, ça fait 35 ans et 8 mois, ça. Bonjour, Shirley.
Bonjour, Sylvain.
J'ai demandé à l'un de vos anciens élèves de vous décrire en quelques mots, et les voici les mots qu'il m'a fait parvenir. Dynamique, passionné, bon sens de l'humour, humaine, sait comment intéresser de jeunes adultes en manque de repères, s'intéresser à eux, à leur vie, à leurs valeurs, cherche à comprendre leurs perspectives. Comment vous réagissez à ça?
C'est beau. Que c'est beau.
Vous reconnaissiez-vous avec modestie? Est-ce que vous vous reconnaissez?
Si je reste modeste, oui, bien sûr, je me reconnais, parce que pour moi, c'est ce qui était ma mission, c'était toujours de prendre ces beaux jeunes-là et de leur offrir des défis, des fois des défis qu'ils pensaient même pas pouvoir passer à travers, là, puis réussir, et je les accompagnais, je les poussais, je les motivais, et lorsqu'ils réussissaient, j'aimais tellement voir la fierté dans leurs yeux, la fierté de s'être surpassé. Et c'était ça ma mission, qu'ils se surpassent. Et il y en avait des étudiants intelligents, brillants. J'avais même pas besoin de les pousser, ils se poussaient eux-mêmes. D'autres étudiants nous arrivaient avec, moi j'appelais ça en langage de baseball, là, avec une prise, là. OK? Il réunissait pas les conditions gagnantes quand il arrivait au cégep. Mais je les accompagnais, je les soutenais, je les motivais. Et moi, j'appelais ça transformer une chenille en papillon. Il s'agit de leur offrir le cocon qui va leur permettre de s'éclater, de s'ouvrir, de se faire confiance. Parce que souvent, c'est la confiance en soi qui manque, c'est l'estime de soi qui manque. Et Et ces étudiants-là, quand je voyais après qu'ils réussissaient, je pense à une, entre autres, qui est maintenant docteur en psychologie, et c'était une étudiante qui était vouée au décrochage quand je l'ai connue, là.
Alors,
pour moi, là, c'est une énorme fierté.
Oui, j'imagine bien. C'est la psychologie là, que vous enseignez au cégep. Est-ce que l'éducation, vous trouvez, a connu une belle évolution? Vous êtes retourné après 10 ans de votre retraite enseignée au cégep le printemps dernier. Est-ce que vous avez retrouvé le cégep que vous aviez connu?
C'est très différent maintenant. Mais c'était très stimulant aussi de retourner après 10 ans, donc le printemps dernier. J'ai remplacé un congé de maternité, en fait. Une de mes collègues qui est tombée en congé de maternité, elle m'a demandé de la remplacer à brûle-pourpoint. Et je vous dirais que ce que j'ai constaté, c'est que ces étudiants-là qui ont connu la pandémie, l'enseignement à distance, ça leur a pas permis d'arriver avec les mêmes bases que les étudiants qui ont toujours évolué à l'école comme telle. Ils appellent ça en présentiel maintenant, là. Alors, pour eux, c'était leur première session au cégep sur les bancs d'école. Alors, c'était un peu difficile pour eux de s'adapter à ça plutôt que d'être en ligne, là, sur Zoom avec leurs profs. C'était pas des conditions faciles.
Je comprends.
Et je sais qu'avec votre deuxième invité, vous avez parlé de l'échec en français. Et je comprends très bien que cet échec-là soit beaucoup plus percutant cette année que les années antérieures, parce que ces étudiants-là n'ont pas eu les mêmes chances.
Ouais. Shirley, il reste 30 secondes à notre trop bref entretien. Est-ce que vous trouvez que l'éducation est la priorité au Québec?
Ça devrait l'être.
Est-ce qu'elle l'est, vous trouvez?
Non. Bien franchement, non.
Vous m'avez fait parvenir une citation d'Angela Merkel, j'ai trouvé savoureuse, qui a répondu aux médecins et aux juges se plaignant qu'en Allemagne, certains enseignants soient mieux payés qu'eux. Elle leur a répondu « Comment est-ce que je pourrais justifier de vous payer davantage que ceux qui vous ont tout appris? »
Exact. Et je pense que si l'éducation était importante au Québec, on rémunérerait mieux les enseignants, on les mettrait dans des conditions pour qu'ils puissent enseigner, des conditions optimales, pas dans des écoles vétustes, pas avec une qualité d'air
discutable.
Dure, là, finalement. Ils ont des conditions pour enseigner qui relèvent du tiers-monde.
Shirley, il faut que je vous remercie. Merci beaucoup, Shirley St-James.
Ça me fait plaisir.
Merci. À la prochaine.
À la prochaine.
Richard Salva a donné le goût à des centaines de jeunes d'ici de découvrir le monde. Il a enseigné la géographie à l'école secondaire Bernard Gariepy. Il a aussi enseigné l'économie. Bonjour, M. Salva.
Bonjour, monsieur, comment ça va?
Ça va bien. Je dis géographie, économie. Est-ce qu'il y a des matières que j'oublie? Et est-ce que vous avez enseigné ailleurs qu'à Bernard Gariepy?
Du tout. J'ai enseigné 6 ans avec Marius Marchand à Sacré-Cœur, c'est pas hier, hein, en géographie pendant 6 années. Et après les 6 années, l'école Bernard Gariepy a été ouverte. Et j'en ai profité pour finir ma carrière-là avec 29 autres années. Et j'ai enseigné la géographie et l'économie à Bernard Gariepy.
Pour intéresser vos élèves à l'économie, on parle de captiver des jeunes de 16 ans, là. Vous les faisiez jouer à la bourse fictive, rechercher des photos de personnalités qui occupaient des postes clés, leur faisiez photographier des institutions représentant des modèles économiques.
Oui.
Vous avez tout essayé?
Oh, j'ai fait beaucoup d'expériences avec eux autres. Même, on avait une activité qui me lisait à la bourse. À chaque jour, il regardait l'évolution de certaines compagnies. Puis à la fin du concours, on avait des représentants de la région qui nous donnaient des cadeaux pour nos meilleures performances. Les élèves pouvaient en profiter, puis en même temps, ça leur donnait une expérience de base pour voir comment ça fonctionnait. Même, à un moment donné, j'ai organisé un voyage à la Bourse de Montréal. Mon fils travaillait là. Et les élèves qui sont venus directement sur la bourse même. Ça, c'est assez spécial. Pas tout le monde qui avait accès à ça.
Ouais. Passionné, dévoué, ce sont les qualités que vos anciens élèves vous attribuent. L'une de ces anciennes élèves m'a partagé le souvenir d'un voyage, d'une journée complète en autobus que vous aviez organisé pour l'Electrium, Pratt & Whitney, la SPCA, un magasin d'échange de monnaie, Radio-Canada, TVA. Vous comptiez pas vos heures, vous, là.
Non, Non, je trouvais ça, ça mettait du piquant, puis ça mettait de l'intérêt pour les jeunes. Puis c'était quand même des jeunes de 15, 14, 15 ans, donc ils se développent, puis ils connaissent des choses parce que c'est peut-être pratique. Puis peut-être moi, je peux vous en profiter, pour parler d'un voyage. Là, on a parlé d'un petit voyage local, mais on, j'avais organisé avec deux de mes amis professeurs, M. Vandal et Villard, un voyage en Europe d'une semaine à Paris. Et on était à l'aéroport Charles de Gaulle, et tous les jours, on était quand même 60 étudiants, ce qui veut dire qu'on avait deux autobus qui partaient de Charles de Gaulle pour aller au centre-ville de Paris. Et là, je vous raconte une anecdote qui est assez originale, parce que on est allé visiter l'Olympia de Paris, on avait acheté des billets pour voir la première mondiale du spectacle de Michel Fugain et le Big Bazar.
Wow!
Je vous dis là, c'est en avril 84. Et là, l'expérience qu'on a vécue, ben, on a regardé, on avait acheté tous les billets, 64 billets, on était placés en haut pour avoir les billets les moins dispendieux, pour que ce soit moins dispendieux pour les jeunes. Et à ce moment-là, quand on a quitté, j'ai demandé, moi, l'autorisation d'aller rencontrer M. Fugain dans sa loge, si c'était possible, parce qu'on a dit qu'on venait du Québec, du Canada, etc. Et il nous a accueillis. On a jasé une bonne demi-heure, mais la meilleure, c'est quand on avait deux autobus, nous autres, qu'on avait besoin pour retourner à l'hôtel. Puis Charles de Gaulle, allé au centre-ville de Paris, c'était un gros trois quarts d'heure. Il n'y a pas d'autobus.
Non!
Imaginez-vous, on est sur place.
Non!
On est 60 élèves plus trois profs. Pas d'autobus. Pour faire une histoire courte, on s'est ramassé au poste de police pour avoir une possibilité de nous donner un coup de main. Puis pour finir l'histoire, on a pris des taxis, une dizaine de taxis, qui nous a ramenés à Charles de Gaulle. Là, les taxis, en arrivant à Charles de Gaulle, on voulait aller, on les paye. Fait qu'on a dit, mettez ça sur la facture de l'hôtel. On vous enverra le montant, puis là, la commission scolaire a défrayé les coûts en temps et lieu par la suite. Mais c'est pour dire, c'était un, puis on a passé la semaine à Paris en visitant les principaux endroits à visiter Paris, les élèves. Je rencontre des fois, ils m'en parlent encore.
Ouais, ça, j'en doute pas. Richard Salva, vous disiez, pour faire une histoire courte, nous autres, on fait des entrevues courtes. C'est déjà fini, ça passe beaucoup trop vite.
Déjà?
Il va falloir se reparler. J'aurais aimé avoir votre sentiment relativement à... l'éducation aujourd'hui, l'évolution, est-ce que ça va dans la bonne direction?
Ben, ça va dans la bonne direction. Autant qu'on a des professeurs compétents qui donnent des cours, puis que c'est une des très belles professions parce que c'est très motivant, c'est très valorisant. Puis voir les jeunes se développer, surtout moi, j'avais des élèves secondaires 4-5, donc ils ont 15-16 ans, puis ils avaient hâte d'aller au cégep pour faire une vie de professionnelle. Fait que c'est la base de tout pour réussir dans la vie. L'éducation, c'est une priorité. Majeur.
On vous a entendu. Hey, merci beaucoup, Richard Salva. Merci beaucoup.
Bonne chance.
Merci, merci. Après la pause, Martine Guilbeault, Pierre Provençal et Ghislaine Cournoyer. Vous allez aussi entendre d'ici 13h Richard Joly, Pierre Giroir et Louis Plamondon.
La méga liquidation est de retour chez Aubainerie. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur un grand choix de vêtements pour habiller toute la famille. Du nouveau-né en passant par l'amateur de plein air à la mode intemporelle, vous trouverez de tout. Visitez Aubainerie et profitez de nos prix méga réduits pour contrer l'inflation.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.
Tu souhaites retourner aux études pour obtenir ton diplôme d'études secondaires ou pour faire un DEP? Les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes Sorel-Tracy sont là pour toi. Viens nous rencontrer aux portes ouvertes jeudi 2 février de 13h à 20h. Pour plus d'infos, communique avec nous par téléphone ou visite notre site web et nos médias sociaux. La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
On profite de la Journée internationale de l'éducation pour renouer avec des profs à la retraite qui ont, au fil de leur carrière, pu influencer le parcours de milliers de jeunes d'ici. Une toute fraîche retraitée, Martine Guilbeault. Bonjour, Martine.
Bonjour, M. Rochon.
À quand remonte-t-elle votre retraite? C'est relativement récent, j'ai raison?
Oui, c'est en juin 2022.
Juin 2022, vous avez enseigné beaucoup, beaucoup à Sainte-Anne-de-Sorel. Depuis 2001, hein, vous enseignez à Sainte-Anne-de-Sorel, à l'école Sainte-Anne-les-Îles. Là.
Oui, effectivement, oui.
C'était aux élèves de quoi, 5e, 6e année?
Les dernières années, c'était 5e année, mais ça fait 37 ans que j'enseigne. J'ai enseigné dans d'autres écoles, mais j'ai commencé au secondaire, mais les dernières années, là, c'était en 5e et 6e année.
Et on parle des 10 dernières années à peu près, hein?
Oui, c'est ça.
Et vous dites que vous avez enseigné ailleurs qu'à Sainte-Anne-de-Sorel?
Oui, ben dans la commission scolaire de Sorel, quand j'étais graduée en 1984, j'ai commencé à faire l'expérience à la polyvalente au secondaire, puis après ça, à l'école Saint-Gabriel-Lallemand, j'ai fait beaucoup à Saint-Aimé, à Saint-David, à Saint-Robert, plusieurs écoles.
Et je vous ai bien entendu dire 37 ans d'enseignement?
Oui.
Et là, est-ce que vous vous ennuyez des jeunes là depuis que vous êtes à la retraite?
Ben, mon truc, c'est que je fais de la suppléance. Alors, comme ça, ben, j'ai encore un pied dans... Je les vois, je suis toujours aussi passionnée, j'adore ça. Je voyais pas le jour où je prendrais ma retraite. Puis quand j'ai réalisé que, tiens, je pourrais faire de la suppléance, surtout qu'avec la pénurie, ils ont besoin d'un coup de main, puis je me suis dit, bon, ben ça me convenait parfaitement. Donc, je fais de la suppléance une journée de temps en temps et c'est merveilleux.
Qu'est-ce qui, dans cette profession-là, qui doit être extrêmement exigeante, là, qu'est-ce qui est le plus gratifiant?
De voir un enfant qui réussit, que quand on vient de leur expliquer quelque chose, la lueur dans les yeux, qu'il a compris. Ça, c'est merveilleux.
Mais l'inverse arrive aussi.
Oh oui, mais à ce moment-là, on trouve une autre façon de le réexpliquer. C'est ça la difficulté, c'est de toujours trouver une autre façon de l'expliquer autrement pour qu'ils finissent par comprendre.
Vous avez enseigné 37 ans. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'enseigner qu'il y a 37 ans?
Ah oui, absolument, oui. Parce que on a ajouté des charges aux professeurs. Puis les enfants, aujourd'hui, il faut tenir compte, et c'est de l'enseignement différencié, il faut vraiment s'occuper des besoins de chacun. Donc, il faut être très attentif. Il faut répondre aux besoins de ces enfants-là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de besoins. Puis dans le temps, on ne parlait pas beaucoup d'enfants hyperactifs. Quand j'ai commencé, on disait, oui, il y en a quelques-uns un de temps en temps. Mais aujourd'hui, dans une classe régulière, comme je pense, mettons, dans mes dernières années, j'avais peut-être le quart ou le tiers de mes élèves qui avaient des difficultés. Quand c'est pas, je me rappelle une année où j'avais 19 élèves, je n'avais 17 en difficulté.
Mais à cette époque où on ne parlait pas de l'hyperactivité là, puis des déficits d'attention, est-ce que c'est pas tout simplement qu'il n'était pas diagnostiqué?
Il n'était pas diagnostiqué, on n'avait pas de ressources non plus. On y allait avec notre gros bon sens. Bon, l'enfant, il est distrait, donc on cherche le regard, on va le chercher parce qu'on s'assure qu'il a bien écouté, qu'il a bien compris. Évidemment, il faut être très patient et répéter. On ne peut pas punir un enfant parce qu'il a un trouble d'attention. Il faut vivre avec.
Est-ce que vous êtes porté à suivre le parcours de ces élèves auxquels vous avez enseigné?
Oui, ben je suis restée amie avec plusieurs. Même aujourd'hui, j'ai des anciens élèves qui sont mes amis aujourd'hui. En 37 ans, c'est ça, je suis rendue des adultes avec des enfants. J'ai régulièrement, là, je les entends, je les rencontre. On s'écrit, mais avec les réseaux sociaux, ça va très bien. Là, on s'écrit régulièrement, puis on prend des nouvelles.
Ouais. Oui. À combien d'élèves pensez-vous avoir enseigné pendant ces 37 ans-là? Si je vous demandais de...
37 heures, on fait une moyenne environ de, mettons, 25 élèves, 37 fois 25. Donc, à peu près autour de 600.
Incroyable. Anecdote en se quittant, Mme Guilbeault, vous avez enseigné à votre fille en maternelle et pendant des mois, aucun élève de sa classe n'a fait le lien entre elle et vous.
Oui, ça c'était drôle. Parce que c'est ça, à l'école, elle m'appelait Martine, puis à la maison, c'était maman. Puis je me rappelle une journée qu'une de ses amies, Julie invite son amie à la maison, elle arrive, puis elle me voit, elle me dit, « Martine, t'es la mère de Julie! » Oui, mais les enfants, ils ne savaient pas.
Si, c'est drôle. Merci beaucoup, Martine Guilbeault, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Pierre Provençal a enseigné l'éducation physique à Bernard Garrier, puis mes aux primaires. D'abord, bonjour Pierre.
Bonjour Sylvain, merci de l'invitation. C'est une très bonne idée.
Ça me fait plaisir. Comment c'est arrivé l'enseignement dans votre vie, dites-moi?
Moi, je suis natif de Montréal et puis, c'est ça, il y avait des profs d'un peu partout, mais il y en avait d'autres, c'est ça, d'ailleurs. C'était pas le seul qui venait de l'extérieur et puis... Dans ce temps-là, c'était la régionale Carignan. Donc, beau défi. On avait même un directeur d'éducation physique à la régionale. On avait des réunions le vendredi après-midi pour planifier, pour se motiver, des défis, des projets. Donc, dans mon département, en éducation physique, ça fonctionnait très fort dans le temps-là. Fait que, c'est ça, c'est une motivation. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai eu le privilège de travailler dans les campagnes. Pour un gars de la ville, c'était une belle expérience. Bien accueilli, entre guillemets, un spécialiste qui se retrouve au primaire avec un milieu de femmes, là, donc connaître le milieu agricole, c'est une belle expérience. Après ça, je me suis retrouvé à l'école Martel, donc à ce moment-là, c'était devenu une école primaire. Et puis, donc, avoir un beau gymnase, bon, de l'équipement, j'étais chanceux. Même pour garder cette école-là, j'avais demandé à la religieuse, parce qu'il y avait des religieuses dans le temps, si je pouvais enseigner d'autres matières pour compléter ma tâche, pour être sûr de garder cette école-là. Mais ça devenait difficile, ce qui fait que quand la Bernard Canepi s'est construite, la polyvalente, ben je me suis allé au secondaire. Encore là, tous de jeunes profs motivés, donc avec une ambiance. Le département d'éducation physique fonctionnait très bien, avec des défis. J'ai connu des profs où on partageait notre expérience, nos connaissances, puis c'était très emballant.
Vous étiez, Pierre, je fais rapidement, vous étiez, c'est unanime chez vos élèves, très attentif à leurs besoins, investi dans leur réussite, concentré à leur faire prendre conscience de leurs points forts plutôt que d'insister sur leurs lacunes. Une de vos anciennes élèves m'a dit que ce qui l'impressionnait chez vous, c'est que vous étiez bon dans tous les sports.
Mm-hmm. Bien, j'ai l'impression que ça aide, on est content, on est à l'aise, on devient des modèles, je pense, pour les jeunes. Et puis, bien, ça rend notre travail plus intéressant. Puis, le but premier, entre autres pour moi, ça doit être pareil pour d'autres profs, c'est de leur donner le goût de l'éducation, de l'activité physique, le plein air, une bonne alimentation. Puis encore aujourd'hui, quand je rencontre mes anciens élèves, bon, on se raconte des anecdotes, mais je leur pose toujours la question, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous en forme? Qu'est-ce que vous faites pour garder votre condition physique? Ça fait que pour moi, c'est une priorité, je pense. C'est ça. Et puis, mais pour ça, en plus, sur l'éducation physique, on pouvait, entre autres dans mon cas, faire beaucoup de parascolaires. Ce qui fait que ça te permet de voir tes élèves plus souvent, leur donner une discipline, les performances, compétition. Et puis ça, ça m'a amené à faire beaucoup d'activités quand j'écoutais tantôt Richard Salva, des sorties de plein air, canot, vélo. J'ai même intégré dans ces sorties-là Benoît Côté, un prêtre de la région, pour qu'on puisse, en plus de faire l'activité physique, d'avoir des thèmes du partage, des échanges, de l'écoute. Et puis, j'ai rencontré des jeunes qui ont participé à des activités comme ça, puis c'est sûr que ça les a marqués. Pour
Pierre, eux. En 30 secondes, je sais, ça va trop vite. En 30 secondes, est-ce que ça va dans le bon sens, l'éducation au Québec, son évolution, où on devrait faire grimper l'éducation bien plus que ça au sommet des priorités de l'État?
Mais il faudrait peut-être aussi focusser sur ce qui va bien, puis en parler. Même dans la région, il y a des beaux projets, entre autres dans le domaine du sport, là. Puis il faudrait prendre le temps de les écouter pour que ce soit des projets qu'on a le goût de refaire ou bien des appuyer puis de les faire connaître, je pense. Même peut-être à ton émission, ce serait peut-être un défi pour toi de faire ça. Et puis, mais c'est ça. Mais c'est sûr qu'on vit dans une société stressante. Des fois, on se questionne pour les parents, quels sont leurs choix, leurs priorités. Puis, les enfants, des fois, sont un petit peu laissés à eux-mêmes.
Pierre, faut que je vous laisse. Faut que je vous laisse, mais on s'en parlera du défi que vous voulez me lancer, là. OK?
OK.
Hey, merci, Pierre Provençal.
Ça me fait plaisir. Salut, bonne journée.
Ghislaine Cournoyer était enseignante en soins infirmiers, elle, au cégep de Sorel-Tracy. Bonjour, Ghislaine.
Bonjour, M. Rochon.
On parle d'une carrière de plusieurs années, Ghislaine.
Oh, pas mal. Moi, j'ai commencé ma carrière d'enseignante en soins infirmiers, je pense, en 1963, puis j'ai enseigné au cégep jusqu'en 97, je pense, j'ai pris ma retraite. Et puis, je suis toujours professionnelle de la santé. Je suis toujours infirmière et puis j'ai fait des conférences, j'ai donné des ateliers depuis ce temps-là, puis je fais du bénévolat. Actuellement, je suis au diabétique de Sorel-Tracy, puis je suis présidente du comité des usagers de Pierre-Boucher et puis comité des résidents de Contrecoeur.
Ah, ben vous.
C'est cette vie de contre-cœur.
Alors, tu ne chômes pas, c'est une retraite occupée, si on peut appeler ça une retraite.
C'est normal. Je pense que tant qu'on est en vie, c'est important d'avoir des choses. Et puis, moi, j'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Alors, c'est comme continuer d'exercer mon potentiel. C'est très bon pour la mémoire. C'est très bon pour la pensée, c'est bon pour même l'action physique, même si je suis plus aussi active dans les sports qu'avant.
L'une de tes anciennes élèves, Ghislaine, me parlait de toi hier. Tu lui as enseigné les soins infirmiers pédiatriques.
Ben oui,
c'était
ben
en 83-84.
Ben, écoute, par les temps qui courent, là, je te dis, c'est assez extraordinaire. Je suis allée pour me faire vacciner, c'était de mes élèves. Qui vaccinait des infirmières. Et puis, j'en rencontre partout. Des filles.
Oui, tu as une idée, est-ce que tu as une idée du nombre d'infirmières que tu as contribué à former?
Ah, oh, mais il y a sûrement 2 000-3 000.
Hey, ça fait du monde.
Je les ai pas comptés, écoute, là, toutes ces années-là. Là, puisque, en plus de ça, j'ai fait de la gérontologie. J'ai formé des auxiliaires, des infirmières auxiliaires. J'ai formé des préposés aux bénéficiaires pendant des années, aussi au cégep. On avait des beaux certificats en gérontologie pour former des préposés aux bénéficiaires.
Ghislaine, quelle est la plus grande satisfaction que tu as tirée de la profession d'enseignante?
Moi, c'est d'abord de demeurer une personne humble, parce que quand t'enseignes, il faut que t'aies beaucoup d'humilité, parce que ça veut pas dire parce que t'es le professeur en avant, puis que tu t'exprimes, puis que tu donnes tes cours, que tout le monde comprend. Mais l'important, là, la meilleure satisfaction, c'est de prendre quelqu'un où il est, quand on les recevait, puis de les amener à graduer, puis devenir des professionnels de la santé. C'est une réalisation peut-être bien simple, mais très, très, très important, parce que regarde aujourd'hui, c'est sûrement qu'il y en a beaucoup d'infirmières, puis il va continuer d'en avoir beaucoup encore, j'espère.
Oui, mais tu dis ça, mais c'est une profession qui a été très, très en vogue, mais c'est aussi vrai aujourd'hui. Je lisais que les inscriptions au programme de soins infirmiers au Québec ont chuté de 10% en 10 ans. Comment tu expliques ça?
Ben, je pense que ça s'explique peut-être que c'était pas la profession qui avait l'air la plus fashion, parce que c'est une profession qui est très, très exigeante. Écoute, c'est 300, les soins de santé au Québec, un peu partout dans le monde, les gens qui ont des problèmes de santé puis qui sont dans les différents lieux où est-ce qu'on exerce, c'est pas facile, c'est très exigeant. La vie des infirmiers et infirmières a changé. Tu sais, il y a des familles, la qualité de la vie, la qualité de la vie familiale, tout ça, là, c'est des éléments. Parce que moi, je parle de mon temps, on n'avait pas le droit de se marier, écoute.
Incroyable, les temps.
Quand on faisait notre cours.
Le monde et les temps changent.
Aujourd'hui, tu sais, alors, c'est tout un changement. Tu sais, la profession n'a pas changé dans le fait des exigences pour exercer la profession, mais les personnes qui exercent sont dans un autre contexte de vie.
Je dois, Ghislaine, je m'excuse de t'interrompre, je dois déjà te remercier. Merci beaucoup, Ghislaine Cournoyer.
Ça m'a fait plaisir, M. Rochon.
Merci, Ghislaine.
Puis, bon chemin à vous-même.
Merci. Après la pause, la récréation sera pas longue, une minute. On parle à Richard Joly, Pierre Giroir et Louis Plamondon.
Chez Meubles André Beaulieu, on commence l'année en beauté avec notre promotion de lave-vaisselle Whirlpool. Jusqu'au 1er février, économisez $350 additionnels sur tout lave-vaisselle Whirlpool admissible à l'achat d'un réfrigérateur et d'une cuisinière Whirlpool admissible. Passez nous voir en magasin pour les détails des rabais instantanés et la liste des modèles admissibles. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus sur la promotion de lave-vaisselle Whirlpool, visitez lemeublebeaulieu.ca.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
On profite de la Journée internationale de l'éducation pour demander à des profs à la retraite de nous partager leurs souvenirs et leurs réflexions. Richard Joly a enseigné les mathématiques à Bernard Gariépy. Je suis un de ses anciens élèves. Bonjour, M. Joly.
Bonjour, Sylvain.
N'avez-vous enseigné qu'à Bernard Gariépy et que les mathématiques ou votre carrière a débuté ailleurs?
Non, ma carrière a débuté au Sacré-Cœur en 1967. Mais j'enseignais les mathématiques. J'ai toujours enseigné les mathématiques. J'avais eu un diplôme pour l'enseignement en mathématiques.
Quel souvenir vous conservez de vos années d'enseignement? J'ai l'impression que c'était chez vous une vocation. On n'utilise plus beaucoup ce mot-là, mais grande disponibilité, beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. Vous aviez l'air de vous plaire vraiment en enseignement.
Oui, ben c'était vraiment, je pense, mon milieu. Là. Je dis pas ça d'une façon hautaine, là. Je le pense vraiment. Moi, j'avais du plaisir là, à être avec les gens, mais j'avais aussi du plaisir là, avec mes confrères. Il y avait des gens comme Jean Tellier, Gérard Larcher, Jean-Guy Smith, Gilles Villot. Ben, c'est tous des gens, là, Charles Sonde, tous des gens qui étaient avec nous, qui travaillaient. Puis on avait aussi une espèce de travail d'équipe qui faisait que c'était agréable, l'atmosphère était vraiment intéressante. Puis faire de la recherche, ben, ça a toujours été un peu une partie de ma vie. Quand je travaillais pas en maths, ben je lisais beaucoup en histoire. Alors je pense que c'était pas difficile pour moi de m'en aller à l'école et puis de pendant une fin de semaine, par exemple, et puis de passer le samedi après-midi là ou le samedi soir avec. Pour travailler, parce que j'étais dans mon milieu.
Un usage qui vous démarquait comme enseignant, vous voyiez vos élèves.
Oui, j'ai fait ça longtemps, parce que, dans le fond, je me disais, tu ne demandes pas aux autres ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Alors, moi, j'aimais ça être respecté. C'était peut-être un vieux jeu. Je fais partie des vieux jeux, de toute façon. Mais j'aimais ça être respecté. Ça ne voulait pas dire que j'aimais être loin de l'élève, mais au début de l'année, j'étais pas le grand copain de l'élève. Ça venait plus tard, ça. On apprenait à se connaître, à se comprendre, puis après ça, bien, il y avait un respect mutuel qui s'installait, et c'était facile, après, de travailler avec les élèves. Ce respect-là, bien, je trouvais au début que ça permettait à chacun, à un moment donné, de donner un instant de réflexion avant de dire des choses qui pouvaient dépasser les normes.
D'accord. Il y a vos examens aussi qui vous distinguaient. Les problèmes à résoudre mettaient vos élèves en vedette dans des situations qui nous étonnaient que vous connaissiez. Je me souviens très bien là, de votre sourire en coin guettant nos réactions.
Ben oui, ben ça, c'était voulu. Mais tu sais, faire un examen comme ça, ça demandait beaucoup de temps. Alors, c'est sûr que quand j'arrivais en classe, ben j'aimais ça voir les réactions pour voir si j'avais atteint mon but ou non. Mon but, c'était de montrer aux élèves que même si on est professeur, on peut apprendre à les connaître, et j'apprenais à les connaître, je les observais, puis j'avais des gens aussi qui me passaient des renseignements.
Vous aviez des espions?
Ayant d'élèves, d'autres élèves, d'autres profs, et puis tout ça, ben, ça me faisait une banque de données que j'utilisais à bon escient.
Oui, c'est ça, à bon escient.
Je pense que c'est dur à remplacer. Et puis, ça met l'élève dans le bain, dans le fond. Si l'élève réussit à se détendre, à s'amuser en regardant une question, je trouve que c'est déjà 50% de l'examen qui est apprivoisé.
C'est vrai. Un regard en terminant sur l'évolution de l'éducation.
Oh, c'est une bonne question. La société a évolué, puis elle évolue encore, puis je trouve à une vitesse qui est quasiment pas mesurable. C'est incroyable comment ça peut changer d'une année à l'autre. Alors, nous autres, on avait un esprit algébriste, et puis avec une géométrie qui était basée beaucoup sur la géométrie plane au départ. Donc, c'est sûr qu'on enseignait en fonction de ces données-là. Mais aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre comment ça fonctionne. J'ai plutôt l'impression que ça semble plus être nécessaire de connaître toute la donnée théorique, parce qu'on peut retrouver ça, on peut avoir ça sur Internet directement. il s'agit de savoir comment l'utiliser.
Oui, c'est ça. Monsieur Genet, on est déjà rendu au bout du temps qui nous est imparti.
On va donner quasiment un discours.
Un cours là-dessus. Hey, j'ai des fleurs pour vous en vous quittant. Il y a une ancienne élève sur notre page Facebook qui écrit que c'est grâce à vous qu'elle a pu passer du rythme faible au rythme fort.
Tant mieux. Quand j'ai des nouvelles comme ça, j'en rencontre de mes anciens élèves des fois, puis qui me disent ça, c'est fameux. Je me dis qu'on a, en tout cas, on a réussi à leur donner un coup de pouce, puis qu'ils tombent vraiment dans leur voie, puis c'est ça qui était notre but premier.
Merci beaucoup, Richard Joly.
C'est moi qui te remercie, Sylvain.
Pierre Girouard, d'avoir enseigné la philosophie au collège de la Gaspésie en 76-77, puis ensuite pendant 20 ans au cégep de Sorel-Tracy, 1977 à 1997, où il est aussi plus tard prof d'anglais. Il a donné également dans l'implication syndicale, président de la Fédération des enseignants et des enseignantes de cégep. Bonjour Pierre, est-ce que j'ai tout bon? Je suis conscient que mon travail est incomplet là.
Tout ce qui a été dit est bon, est exact, absolument. Ça me fait plaisir de faire partie de l'émission. Bravo, c'est une belle idée. Et je l'ai écouté depuis le début. C'était passionnant.
Une bonne partie du job des enseignantes et des enseignants est invisible. On a peu parlé de ça ce midi. Je pense à la préparation des cours, à la correction.
Ah, bien évidemment. Puis ça vaut à tous les niveaux, là. Moi, j'enseignais au cégep, mais je connais des gens qui enseignaient au primaire et au secondaire. Ils passaient leur soirée à chaque jour, toute la semaine, à préparer du matériel. Et pour le prouver, il y a de plus en plus de profs au primaire et au secondaire qui prennent des semaines de 4 jours, qui sacrifient une journée, qui sacrifient 20% de leur salaire pour être en mesure de faire le travail sur les 5 jours. Alors, il y a une face cachée de l'enseignant
en dehors
de la classe.
Oui, vous faites aussi de l'épreuve de l'encadrement, vous suggérez des pistes d'amélioration, vous encouragez.
Oui, puis on a la préparation des cours, on a la correction, on a de l'encadrement, des rencontres avec les étudiants, on a également des rencontres en département, en programme, parfois avec l'administration aussi. Alors, Ça s'appelle, au niveau du cégep, la reconnaissance de la profession enseignante. Il y a eu un dossier important il y a une vingtaine d'années avec le ministère. Ils ont démontré conjointement, les deux parties, l'incompressibilité de la tâche enseignante. Parce que on ajoutait des cours, mais à un moment donné, le presto saute. Là.
Ah ouais. Pour être resté si longtemps dans l'enseignement, il a fallu que vous y trouviez de la gratification. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus gratifiant à exercer cette profession-là?
Moi, je dirais que le plus beau souvenir que j'ai, c'est la créativité des étudiants. Il suffit de leur ouvrir les portes. Puis, à titre d'exemple, quand j'enseignais l'anglais, à un moment donné, ils avaient à faire une présentation orale. Et c'était d'expliquer des instructions, un mode d'emploi. Alors, le meilleur exemple, c'est une recette, par exemple. Alors, je peux rappeler un événement absolument délicieux. J'étais à être évalué comme nouveau prof d'anglais. Il y a une conseillère pédagogique qui devait venir dans un de mes cours. Et le matin où elle est entrée dans cette classe-là, j'avais 3 élèves en train de faire une présentation orale. Comment on fait un club sandwich? Ils avaient apporté le grille-pain, le pain, le beurre, tout ce qu'on met dans un club sandwich. Ils étaient en train de faire leur présentation.
Ce que vous savez pas, c'est que...
Ils étaient merveilleux.
Ce que vous savez pas, c'est que c'est mon mets favori, le club sandwich.
Oui, mais moi, j'étais là derrière la classe à les évaluer. Alors, j'ai été évalué comme étant en train d'évaluer la présentation de ces élèves-là, qui était une merveilleuse présentation. Alors, inutile de dire que mon évaluation à moi, elle était très positive.
Merci, Pierre, pour cette histoire. Ça passe trop vite. Je suis sûr que vous en aviez des dizaines à me raconter. Il faut se reprendre. Il faut se reparler. Merci, Pierre Girouard.
C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Merci. On termine cette émission en compagnie de Louis Plamondon. Bonjour, Louis Plamondon.
Oui, bonjour.
Vous avez beau être député depuis 40 ans, Louis, il y a plein de monde à Sorel qui vous croise, qui ne vous parle pas de politique, mais des maths que vous leur avez enseignés. Ça vous fait chaud au cœur qu'ils se rappellent du prof que vous avez été?
Oui, en mathématiques. J'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner. D'ailleurs, À tout au mois de septembre, j'ai un petit peu un pincement de cœur quand je vois les étudiants se rendre à la polyvalente ou dans une école primaire, parce que j'enseignais aussi 4 ans au primaire. Et je me dis, mon Dieu, que j'avais du plaisir, puis de j'avais beaucoup de réussite aussi, je pense, parce que j'avais pas d'élèves, moi, qui doublaient. Il fallait qu'ils passent. Il n'y avait pas le choix. Je me rappelle, j'ai toutes sortes d'anecdotes d'un étudiant qui leur disait au début de l'année, d'ailleurs, la première journée, je ne parlais pas du tout. J'avais un questionnaire, je leur faisais répondre, puis là, je les regardais.
Il devait dire, y a-tu de la bête, ce prof-là?
Oui, ils se demandaient quelle sorte de fou qu'il y avait là, puis là, le lendemain, je parlais pas fort. Fait qu'à chaque fois que, mettons, que la classe était indisciplinée, j'arrêtais de parler. Il arrêtait tout juste de parler. C'était ma façon d'imposer mon autorité, si tu veux. Et puis, il y avait des étudiants, puis là, je leur disais dans la deuxième journée qu'ils n'avaient pas le choix de réussir ou pas, et que s'il le fallait, j'irais chez eux. J'irais chez eux le soir, leur faire répéter leur leçon si ça fonctionnait pas à mon goût. Alors, je m'arrangeais toujours pour que dans le premier mois, on avait 4 classes dans ce temps-là. Dans le premier mois, trouver un étudiant pas trop zélé. Et là, j'arrivais à 7 heures le soir chez eux, ding-dong, puis là.
Ah, vous le faisiez, vous mettiez la menace à exécution?
Alors, lui, il disait, tu comprends, le lendemain, à toutes les autres, il y avait toute une frousse de veille chez eux, là, devant leurs parents, leur répéter mon cours de maths. Alors, c'était pas méchant du tout, mais en même temps, ça aidait, ça motivait les autres comme il faut.
Ben, c'est une émission qui va avoir été nourrie de beaucoup d'anecdotes. Votre regard, il nous reste 30 secondes, votre regard sur l'évolution de l'éducation au Québec, Louis, est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens?
Ben, c'est un peu comme partout. Hein, c'est le manque de professeurs, le manque de personnel, ça affecte énormément, c'est certain. Parce que dans mon temps, ça prenait 8 à 9 ans avant qu'on ait la permanence. Hein. Alors, tu pouvais être envoyé n'importe quand dans les 7 ou 8 premières années. Il y en avait du monde qui voulait devenir professeur. C'était pas drôle. Il y a la même chose au niveau du secrétariat, au niveau de la psychologique aussi, dans le département. Il y en avait du monde. Et puis là, ben, il y en a moins. Alors, ça veut dire que souvent, on tourne les coins ronds, mais quand même, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font encore ce métier-là, parce que c'est pas pareil comme dans notre temps. Alors, les jeunes vivent avec Google, puis vivent avec l'Internet, puis il y a un sabotant que le prof aussi parle de tu sais. Alors, dans ce cas-là, on était les dispensateurs du savoir adulte, mais là c'est plus ça. Là, c'est comment travailler avec ces nouveaux instruments-là,
ouais, pour
le renseigner.
Faites bien le signer.
De la bonne manière.
Merci beaucoup, Louis Plamondon.
Ah, c'est un plaisir.
Merci, à bientôt. Merci à l'ensemble de mes invités, Olivette Saint-Germain, Jacques Cournoyer, Shirley Saint-James, Richard Salva, Pierre Provençal, Ghislaine Cournoyer, Richard Joly, Pierre Girouard et Louis Plamondon. La semaine prochaine, à la tribune, les snowbirds et puis les vacanciers du Sud.